18h-20h, ici c'est Willy. Willy Sagnol.
Allez, 18h, bonsoir, c'est Willy Sagnol. C'est parti pour ici c'est Willy jusqu'à 20h sur RMC, avec comme tous les vendredis soirs, Franck Leboeuf. Salut Franck.
Salut mon Willy.
Ouais, et ce soir, alors pas de Jean-Louis Tour.
Non, mais c'est bien.
Parce que demain, je crois qu'il est à Madrid.
Ouais, le mec qui travaille le week-end, donc il fait RTT le vendredi.
Exactement, ouais. Exactement. Donc on a Louis Amar. Salut Louis.
Salut Willy, salut à tous. Je suis ravi d'être avec
vous. Salut Louis,
nous aussi. Hein. Et un autre, bien sûr, notre titulaire indiscutable, bon, bah là, François Pinet. Salut François.
Salut Willy, salut à tous.
Comment vas-tu?
Bah très bien.
Toi, tu vas pas à Madrid, toi?
Bah non, mais non. C'est pour ça. Moi, j'ai mon week-end.
Et j'y tiens. On a notre week-end avec François.
Ah, moi, j'y tiens mon week-end.
Ah,
mais j'ai regardé, bien sûr.
C'est toi ou ta femme qui y tient?
Ma femme aussi, tiens.
D'accord.
Non, c'est pas si vrai. Si je lui dis, je te laisse avec ma fille pendant deux jours, je suis pas sûr que ça fonctionne.
C'est vrai?
C'est ce que tu crois, ce qu'elle veut te faire croire.
Même pour le boulot.
Ah, ouais, bah écoute.
Ah, bon, en tout cas, c'est content que j'aille à Madrid.
T'as le droit.
Hein. On parle de Madrid.
C'est l'inverse, tu vois.
On va beaucoup parler de cette Ligue des Champions, de cette finale de demain.
Ah oui.
Et il faut surtout, Louis, faut pas rater cette magnifique minute de Franck Leboeuf.
Ah bah oui.
qui va parler à Villas-Boas. Là, il va lui dérouler le tapis rouge.
Ça sera tout à l'heure. Quasiment 2 heures spéciales Ligue des Champions. Vous le savez, Willy vous l'a rappelé, la finale. C'est demain entre Liverpool et Tottenham. On sera au Metropolitano de Madrid dans quelques minutes avec Loïc Braillet. On se demandera si le titre peut cette année échapper aux Reds. À 18h25, ton coup de cœur, Willy, sur les entraîneurs Jürgen Klopp et Mauricio Pochettino. Franck, toi, tu nous parleras donc et tu t'adresseras directement à lui, André Villas-Boas, le nouveau coach de l'OM. À 18h45, le journal moyen de Pierre Amiche. Après 19h, on parle d'Hugo Lloris, champion du monde en 2018, peut-être champion d'Europe en 2019. Tout seront avec Lionel Charbonnier, Laure Le Payeur et Rio Mavouba. Enfin, le mercato du Real, ça sera dans le carré VIP à 19h25. Mais d'abord donc, la Ligue des Champions.
Comme
diraient
les supporters des Boys de
Liverpool. Non,
Il dirait incredible.
Après un échec l'année dernière face au Real de Zidane et Ronaldo, Liverpool est cette fois opposé à un adversaire à sa portée, Tottenham, que les Reds ont battu deux fois en championnat. Willy, est-ce que la Ligue des Champions cette année peut leur échapper?
Pas de... Alors en théorie oui, parce que et en plus on a vu cette année quand même il y a eu beaucoup de surprises, les éliminations de grands clubs de manière précoce, des échecs comme le Barça qui est encore inexplicable, le retour de Tottenham à Amsterdam. Donc il y a vraiment eu beaucoup de choses cette année qui nous ont plu d'ailleurs, parce que ça a amené de la vie, ça a amené de un petit vent de fraîcheur, mais quand même, quand on regarde les effectifs, quand on regarde surtout le passé de ces deux équipes sur l'année, comment les équipes se sont qualifiées, et surtout ce qui se passe depuis janvier. Ce qui se passe depuis janvier, c'est qu'il y a une dynamique côté Liverpool qui est tout simplement monstrueuse, que ça soit en Champions League et que ça soit en championnat aussi. Et Tottenham, on va dire, c'est plus sur la Champions League où ils ont réussi un ou deux exploits, mais en championnat c'était plus compliqué. En championnat, Liverpool a quand même largement dominé cette équipe de Tottenham les deux matchs.
Oh, largement.
Ouais,
mais... 2-1 à chaque fois déjà.
Ouais, mais bon, dans le jeu,
match retour était pas si...
avec un but à la dernière seconde dans le
match retour. Ouais, mais dans le jeu quand même, il y avait quand même une certaine maîtrise et quand même une certaine domination dans le jeu quand même de Liverpool. Donc on pourrait dire voilà, oui, ça peut pas leur échapper, ils ont perdu une finale l'année dernière. Ils peuvent pas en perdre une autre cette année. Bah si, dans le foot tu peux perdre deux finales de suite, ça arrive. Mais je vois quand même un petit avantage à cette équipe de Liverpool. Je vois plus de maturité. Je vois plus de joueurs capables de faire la différence. Quand on regarde Tottenham, on sait pas trop d'où peut venir le danger. La dernière fois, il est venu d'un endroit où on pensait pas.
Avait vu Lucas.
Ouais. Enfin bon, c'est. Oui, mais moi, c'est moi. Tu le sais, François. Non, mais tu vois, c'est tu sais pas trop, c'est un peu un Tottenham qui peut vraiment montrer deux visages à l'intérieur même des matchs, alors que Liverpool, même son match aller à Barcelone était très bon aussi. C'est qu'ils ont pas eu la réussite, Louis, tu te rappelles.
Absolument.
Ils ont quand même eu beaucoup d'occasions. Donc je sens quand même cette équipe de Liverpool beaucoup plus sûre de son sujet, mais bon, c'est une finale de Coupe d'Europe.
Francky.
Intrinsèquement, pour moi, il n'y a pas photo. Liverpool est largement au-dessus de Tottenham. Sincèrement, au niveau du jeu, au niveau technique, au niveau tactique, au niveau de même au niveau psychologique, ils sont au-dessus. Mais maintenant, ça veut rien dire. Une finale, c'est une finale. On remet tout à zéro et on rejoue. Surtout que le côté j'ai de la chance pèse du côté des Spurs. Alors que Liverpool, l'année dernière, c'était pas ça, ils perdent. Klopp en est à la sixième finale d'affilée perdue.
Voilà, c'est six finales perdues depuis 2013 pour Klopp.
Voilà.
À partir de la finale de Ligue des Champions 2013 qu'il a perdue avec Dortmund contre le Bayern. Ensuite, il y a eu deux finales de Coupe d'Allemagne perdues, la finale de Ligue Europa en 2016 avec Liverpool, la finale de la Coupe de la Ligue anglaise aussi en 2016, et donc cette finale de Ligue des Champions 2018.
Et donc, les joueurs y pensent. Les joueurs de Liverpool savent que c'est peut-être la dernière fois où on peut faire confiance à Klopp, parce que sinon il passera pour un loser à vie et que quand tu l'as comme entraîneur, tu gagneras pas une
finale. Et les joueurs, ils y pensent à ça, Franck ?
Mais bien sûr qu'ils y pensent, parce que les statistiques, elles font partie de ta vie. Elles font partie. Moi, j'ai eu la chance de jouer ma première finale, je l'ai perdue. Après, j'ai tout gagné. Mais tu vis sur ce crescendo. Moi, j'ai fait que j'ai pas encaissé de but sur toutes les finales que j'ai jouées. Les clean sheets. Et ça te donne une force supplémentaire. Tu dis, de toute façon, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 finales. J'ai pas encaissé un but, on a tout le temps gagné. Mais bien sûr que le côté psychologique qui compte et ça en fait partie. Alors on remet tout à zéro, mais psychologiquement il y a des petits détails qui font que la différence va se faire à ce moment-là. Les mecs de Tottenham disent oui, on a une saison de merde. Oui, t'as raison, comme t'as dit, c'est pourri, on n'est pas sur le même motif et la même fréquence que Liverpool. Mais on nous a dit ça avant l'Ajax.
Oui.
Et on perdait 2-0. Et puis d'un seul coup, il y a un fantôme qui s'est réveillé. Enfin, un ancien fantôme du PSG qui s'est réveillé, qui a foutu un triplé. Et ils sont en finale.
Mais ce parcours complètement dingue de Tottenham en Ligue des Champions, il n'a pas commencé, François, en demi-finale face à l'Ajax. C'est depuis septembre une succession de miracles.
Oui, c'est ça qui peut peut-être inquiéter les supporters de Liverpool et les joueurs de Liverpool. C'est que ça a commencé notamment à la fin de la phase de poule avec ce but de Lucas déjà au Camp Nou,
Barcelone, ouais.
Un but partout, et il fallait en plus dans le même temps que
l'Inter
trébuche face au PSV, et c'est ce qui s'est passé. Donc là, c'est un petit miracle qui est arrivé en phase de poule, et ensuite en quart de finale, on se souvient aussi du but annulé à Agüero à la dernière seconde.
Mais tu penses pas François, donc, quand même que Tottenham a bouffé quand même son quota de miracles quand même.
Le dernier exemple, c'est Chelsea 2012. On peut penser à ça, Chelsea 2012, qui revient de nulle part, qui change d'entraîneur entre le 8e aller et le 8e retour, qui se qualifie au Camp Nou contre le Barça en demi, ce qui était inenvisageable à l'époque, qui égalise à la 88e minute de la finale sur une tête de Drogba.
Non, puis surtout que...
Quelque chose, non ?
Sur tous les paris qu'on peut faire, sur toutes les prévisions qu'on peut faire depuis les quarts de finale, tout va à l'inverse de ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que qui pouvait dire que Tottenham allait se qualifier contre l'Ajax ? Qui pouvait dire que Liverpool, surtout pas Christophe Dugarry, allait gagner contre Barcelone ? Et en quart de finale, on a eu plein de trucs. Qui pouvait dire que Manchester United allait gagner au Parc des Princes ? Enfin, c'est une Ligue des Champions complètement folle. Donc,
c'est une finale. Là, c'est une finale. Donc, c'est un match différent. Après, on sait, regarde, les Liverpool, les dernières, bon, tout le monde dit, ouais, génial, le Real, super, oui, je suis d'accord. Voilà, mais... Tu joues quand même un match où t'as ton gardien qui te fait deux énormes couilles.
Ouais, Karius.
T'as Salah qui se blesse.
Tu as Salah qui se blesse au bout de 20 minutes, alors que les 20 premières minutes,
donc
c'est Liverpool qui domine je veux pas dire largement, mais qui domine quand même bien ce match-là.
Et le Real, c'est les chanceux de la Champions League de l'année dernière, comme Tottenham.
Ouais. Et donc y a un match qui tient pas grand-chose.
Ah non, bien sûr.
Quand t'as deux équipes de ce niveau-là, en finale, un match ne tient pas à grand chose. Ça va être une décision d'arbitre, une blessure, une glissade.
Mais depuis 6 ans, quand même, on voit que le favori gagne. Depuis justement le Chelsea, qui était vraiment pas le favori face au Bayern.
Ouais, dis donc, arrête de insulter mon club. Hein.
Et c'était pas le favori à l'époque.
Non, mais
c'est un des scandales du football, cette finale.
C'est assez logique. Le Real qui domine l'Atlético.
C'était où ? Contre qui ?
À Munich, face au Bayern. Voilà. Un match que si le Bayern recommence, ils le gagneront 98 fois sur 100.
Depuis, le favori de la finale s'est imposé à chaque fois.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on sent quand même une expérience, l'expérience sans doute de la finale perdue l'an passé. Ça risque de compter face à une équipe de Tottenham qui est pas programmée au départ pour être en finale de Ligue des Champions.
Ouais, et puis quand même Liverpool cette année par rapport à l'an passé à d'autres joueurs aussi. Ils ont fait venir Fabinho, Keita. Donc il y a quand même des joueurs.
Alisson
aussi.
Ouais. Gardien. Ils ont pris un
très bon gardien. 7
millions d'euros.
On va attendre.
Il manquait du monde au milieu.
On va attendre la finale de demain pour.
Voilà. Non mais sûr que... ils ont quand même un peu plus d'armes que l'an passé. L'an passé, quand on regardait Liverpool, on était tous subjugués par ce qu'ils faisaient sur le terrain, mais on savait que un grain de sable ou un joueur absent pouvait tout changer.
C'est vrai.
Là, on se dit quand même, ils ont peut-être d'autres armes. Et même quand on a vu qu'il n'y avait pas Firmino,
Origi, là.
Ni Salah d'ailleurs.
Ni Salah, eh ben ils nous sortent Origi de nulle part. Alors je sais pas ce qu'il lui a dit toute la semaine à Origi avant cette demi-finale. Mais Origi, il a commencé le match comme une pile, on l'avait jamais vu comme ça.
Il était extraordinaire.
Et le mec il marque deux buts. Donc
non mais de toute façon, bien sûr, encore une fois, comme j'ai commencé moi sur cet exposé là et sur ce débat là, c'est que Liverpool est meilleur que Tottenham. Enfin, celui qui peut me dire que Tottenham est meilleur que Liverpool, oui, c'est parce qu'il est supporter de Tottenham. Mais quand on voit la saison, on voit le jeu, parce qu'il n'y a pas d'équipe qui soit aussi forte, peut-être Manchester City, mais qui soit aussi forte que Liverpool. Le jeu proposé, l'enthousiasme des joueurs, enfin, tout ce qu'on a vu, c'est absolument Liverpool qui doit gagner cette Champions League. Mais c'est une finale.
Et tu vois, je pense qu'il y a certains joueurs, je vais parler de Mané et de Salah. Je pense que ce sont des joueurs qui, à un moment donné, méritent une consécration. Une consécration avec le plus grand titre qui existe pour un club, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Ce sont des joueurs qui, pour moi, quand je les regarde jouer, enfin,
c'est une régale.
C'est le football qu'on aime.
Mais là t'es un poète, t'es un poète du football, t'es un nostalgique du.
Enfin, non, je suis pas nostalgique, mais j'ai envie quelque part.
C'est pas la question. Voilà. La question, c'est est-ce que Liverpool va gagner facilement.
Exactement. Mais moi, je trouve que ces joueurs-là, par rapport à ce qu'ils font maintenant depuis 2 ans, 3 ans, méritent le plus gros trophée.
Mais même les Reds, ils méritent d'abord de gagner encore une fois une Ligue des Champions, bien parce sûr. Que ce club, enfin, il est mythique. Hein. Moi, j'étais joueur de Chelsea. On m'en parle souvent, mais je dis. Absolument, surtout quand ils ont perdu le championnat, quand c'est la glissade de Gérard, ouais. À un moment donné, il faut qu'ils regagnent quelque chose. Il est à 97 points, tu finis deuxième du championnat. Enfin, il faut qu'il y ait quand même un équilibre.
Allez, on continue de parler de la finale de demain avec un ancien joueur des Reds qui a connu de près ce mythe. C'est Bolo Zenden qui est avec nous, ici c'est Willy. Bonsoir Bolo.
Bonsoir
Bolo.
Et merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RMC.
Ancien joueur de Chelsea et de Marseille.
Bien sûr, aussi.
Pas oublié. J'ai dit bonjour.
Là, vous avez tous le même parcours.
J'ai dit bonjour quand je partais.
C'est vrai que j'ai bougé un peu. Ça.
Ouais, on s'est vu à l'ancien centre d'entraînement à Arlington où il venait de signer et moi je partais à Marseille.
Donc vous avez jamais joué ensemble?
Non, on s'est croisés dans le vestiaire, mais on n'a jamais joué ensemble, non, malheureusement.
Peut-être qu'il voulait pas jouer avec toi.
Oui,
peut-être.
Vous aviez demandé en signant à ce que Franck quitte le club, c'est ça? Bon Bolo, est-ce que pour vous aussi vous voyez Liverpool l'emporter demain face à Tottenham dans cette finale?
Oui, je le vois bien. J'ai bien écouté ce que vous avez dit là, justement. Et c'est vrai que c'est à mon avis, c'est la meilleure équipe. Mais c'est pas toujours que la meilleure équipe gagne la finale. C'est un match en général, c'est 50-50%. Mais bon, Liverpool, la saison qu'ils ont fait. Le demi-finale qu'ils ont joué contre le Barça, ça les a donné tellement de confiance. En plus, ils ont l'expérience de l'année dernière, quand ils avaient perdu cette finale. Je crois pas qu'ils vont laisser passer encore une fois. Donc, c'est pour ça que, avec l'émotion, avec le bon esprit qu'ils ont en ce moment, je mettrai quand même d'argent sur Liverpool.
Tu penses, Bolo, tu penses que Klopp, il va dans sa préparation du match, tu penses qu'il en a parlé de la finale l'an passé? Tu penses qu'il peut tirer, il en parle aux joueurs pour essayer d'en tirer une source de motivation, ou tu penses qu'il l'a complètement mis de côté?
Non, je suis certain qu'il parlait de ça. Il y a pas mal de joueurs qui ont vécu ça. Moi aussi, j'ai perdu en finale, notamment avec la Liverpool contre le Milan AC. C'était 2-1. Et je peux te dire, comme tu sais, le final, tu les joues pour les gagner. Parce que si tu les gagnes pas, c'est quand même quelque chose que tu oublies pas. Et c'est pas pour la bonne raison. Donc, c'est vrai que je suis sûr qu'il va l'utiliser. Et aussi ça va les aider de cette finale demain.
Bolo Zenden est l'invité d'ici, c'est Willy, en direct sur RMC. Bolo, on parlait tout à l'heure de la chance de Tottenham tout au long du parcours des Spurs en Ligue des Champions. Est-ce que ça, quand on est joueur adverse, quand on est joueur de Liverpool, on y pense avant le match en se disant, attention, on est contre les chanceux de l'année quand même?
Non, je crois pas, parce que oui, Tottenham, ils ont eu la chance. On a vu ce qui s'est passé pendant leur parcours. Même nous, les a affrontés dans le groupe, parce que je suis aussi entraîneur du PSV, donc j'étais à Londres quand on a fait le match super bien contre eux, et malheureusement, on n'a pas pu gagner ce match. Mais il y a aussi un moment où notre défenseur, ils ont vraiment fait une grande exploit pour éviter une but de Inter Milan sur le dernier match de ce groupe, parce que si cette but était faite, le Tottenham n'était même pas passé, c'était l'Inter qui était passé. Donc vraiment, dans tout le parcours de cette parcours de Ligue des Champions, ils ont eu un peu la chance. Mais non, si on va mettre les deux équipes à côté, on parle même pas de parcours qu'ils ont fait, la Ligue qu'ils ont fait, les points, les buts qu'ils ont fait. Le Liverpool, ils ont quand même plus de qualité dans cette équipe. Et c'est quand même une équipe plus complète. Donc justement, seulement pour ça, je crois que le Liverpool, ils sont obligés de gagner ce match demain.
Et pardon, excuse-moi. Est-ce que tu penses que le fait que Jürgen Klopp, qui en est à sa 7e finale, qui en a perdu 6, peut être une source de peur des joueurs de Liverpool en se disant que ben, peut-être qu'ils vont encore perdre une finale?
Non, je crois pas trop dans le passé. Ça veut dire que c'est le jour de demain, ça va être différent. Faut l'essayer de nouveau. Quand j'étais à Middlesbrough, ils avaient déjà joué 5 fois une finale. Ils ont 5 fois perdu la finale. Mais quand j'étais là, on a quand même gagné le League Cup en Angleterre. Et c'était quand même fêté comme un grand trophée. Mais juste pour te dire, c'est des statistiques. Mais le jour de demain, il va décider qu'est-ce qu'ils ont écrit demain soir de nouveau dans les livres, dans les bouquins.
Merci beaucoup Bolo d'avoir été avec nous en direct sur RMC. À très vite. Vous
Merci
serez
Bolo.
Supporter de Liverpool évidemment demain.
Bien,
Bolo.
Vous serez à la prochaine.
Supporter de Liverpool évidemment demain.
Bien sûr. Allez les Reds.
Salut.
Merci Bolo. J'aimerais qu'on revienne sur.
Non, tu vois Klopp. Moi je veux qu'on revienne sur Klopp sur ouais. Ce qu'il a. Alors le mec, il les 6 dernières finales, il les a perdues. Est-ce que tu t'imagines une seconde dans sa tête, Franck? Tu vois, t'es Jürgen Klopp,
lui pris.
Et avant cette finale, non, mais tu te dis, les 6 dernières, je les ai perdues, j'ai fait 6 discours différents, j'ai activé 6 leviers psychologiques différents, et j'ai à chaque fois perdu. Est-ce que tu penses, alors, je suis persuadé, de toute façon,
il le dit pas. Ouais, ça, ouais, il a bien ça vraiment avec beaucoup de recul.
Ouais, mais c'est très bien.
Recordman des demi-finales.
Voilà, mais justement, c'est pour le coup. Mais c'est très bien, parce qu'en plus, ça correspond au personnage, c'est, mais,
humble, ouais.
Lui, quand il est tout seul dans son bureau, par exemple 48 heures avant la finale, par exemple hier, et donc on se dit allez on va partir, on va aller à Madrid, qu'est-ce que je vais leur dire à mes joueurs? Qu'est-ce que je peux dire de plus que j'ai déjà dit et qui n'a pas marché?
Psychologiquement rien. C'est tactiquement qu'il va exposer ce qu'il va faire, mais je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire, ça reste une finale. Comme l'a dit Bolo, comme on dit tous, qu'on a tous connu des finales, on se retrouve avec un point d'interrogation. Sur qui la
ouais,
chance
mais c'est encore
va,
une
va
finale. C'est, mais c'est une finale encore un peu plus spéciale puisque c'est contre un autre club anglais.
Ouais, c'est encore plus difficile. Hein.
Donc t'as la connaissance de l'équipe adverse.
Y a pas.
Ils se connaissent parfaitement les deux clubs. Donc insister sur le côté. Dire sur le côté tactique peut-être. Kane, pas Kane.
Non mais là c'est le match. Tu n'as aucune certitude, tu ne sais pas ce que ça va donner, comment les joueurs vont être. On voit sur tous ces matchs-là, c'est qu'à un moment donné, s'il y a quand même un gros point d'interrogation, c'est la chance avec qui elle va être demain. C'est ça. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire.
Bah là, les dés sont jetés de toute façon. Là maintenant, tout ce qui va se passer, c'est, je dirais, c'est entre guillemets, ça appartient aux joueurs. Mais il y a un seul moment où il a encore une chose qu'il peut faire avant le match, c'est le discours d'avant match.
Peut-être même pas.
Ouais,
peut-être.
Mais en théorie, c'est
oui, tu peux.
À part les remplacements pendant le match, c'est la dernière fois où il peut impacter sur son équipe.
Non, parce que Tu ramages, je peux raconter ce que tu veux. On parlait d'Origi, tu parles, on dit qu'est-ce qu'il lui a dit pendant la semaine, mais peut-être qu'il a rien dit parce qu'il a peut-être rien à dire. Moi, Aimé Jacquet m'a pas parlé avant la finale de la Coupe du Monde pendant 3 jours.
Ouais, mais toi, il savait qu'il avait pas besoin, t'étais prêt, France.
Certainement,
prêt.
Certainement. Mais, c'est ça, c'est qu'il y a plus rien à dire, c'est une finale. T'as juste à te mettre là, à prier, t'es pourvu que les joueurs aient compris ce que j'ai voulu faire passer, et puis que ça va, ce jour-là, il sera en pleine forme. Origi fait un match exceptionnel. Tu t'attends pas à un mec comme ça qui est remplaçant, on se dit, oh putain, il y a pas ça là.
Surtout qu'il l'a jamais fait avant, donc. Je dis pas qu'il va le sortir.
Et le mec te sort le match. Donc, grâce à qui? Grâce à la chance.
18h23 sur RMC, dans un instant la suite d'ici c'est Willy. On revient évidemment à cette finale de Ligue des Champions entre Liverpool et Tottenham. Willy, tu nous parleras dans un instant des entraîneurs Mauricio Pochettino et Jurgen Klopp. Et puis toi, dans ta minute, le bœuf, Franck, tu t'adresseras directement à André Villas-Boas. D'abord, le direct en cette fin d'après-midi, c'est le tennis, la porte d'Auteuil Roland-Garros et des Français sur les cours, Eric Salio.
Absolument, des Français sur les cours, puisque Nicolas Mahut et Corentin Moutet peuvent toujours espérer rallier les huitièmes de finale. Celui qui est en ballotage peut-être favorable, c'est Corentin Moutet. Pourquoi ? Parce qu'il est mené de 7-1, certes, mais il mène 4-2 dans le quatrième set face à Juan Ignacio Londero. Pour Nicolas Mahut, c'est beaucoup plus compliqué. Il est touché au fessier et désormais il est distancé 2 manches à 1 par l'Argentin Leonardo Mayer. Puis sur le central, attention, point très important, Rafa Nadal est peut-être sur le point de se faire breaker à 4 partout au troisième par David Goffin. On va suivre ce point qui peut donc permettre au Belge de breaker. C'est fait sur une accélération de coup droit. Le Belge va servir pour revenir à 2 manches à 1 sur le central.
Merci Eric Salio, à tout à l'heure. 18h24, ici c'est Willy, reviens dans une minute sur RMC, ne bougez pas.
RMC, 18h20, ici c'est Willy. Willy Sagnol.
Allez, 18h28, de retour dans ici, c'est Willy avec Franck Leboeuf, François Pinet et Louis Amar. Louis, c'est dans mon coup de cœur.
Absolument, dans quelques instants. Willy se régale, tu vas nous parler de Jurgen Klopp et Mauricio Pochettino. Et puis à 18h45, comme chaque jour, le journal moyen avec Pierre Amiche ce soir. Salut Pierrot.
Et oui, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va voyager. Je vous emmène au Burundi, en Corée du Sud, en Mongolie. Ouais, je parle du Moscato Show. C'est le tour du monde du football un peu jojo. C'est dans moins de 20 minutes avec des vrais morceaux de dictateur, du RC Lens et des petites annonces du cœur dedans.
C'est parfait, merci Pierrot. À tout à l'heure pour le journal moyen. Juste avant ton coup de cœur, Willy, on retourne à Madrid, au Metropolitano, théâtre demain de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Tottenham. On y retrouve Loïc Braillet. Bonsoir Loïc.
Bonsoir messieurs, bonsoir. Salut. Tout le monde.
Salut Loïc. Tu as suivi les conférences de presse de veille de match, que faut-il en retenir Loïc?
Alors on a surtout suivi la conférence de presse de Jurgen Klopp, puisque celle de Tottenham va arriver dans quelques minutes maintenant, mais on a quand même pu croiser Hugo Lloris et lui poser quelques questions, mais on a surtout assisté au one-man show de Jurgen Klopp. Alors on est habitué depuis qu'on suit les matchs européens, notamment de Liverpool, à avoir ce grand sourire sur ce visage du coach allemand, mais la décontraction qu'a Jurgen Klopp à la veille de cette finale de Ligue des Champions, c'est totalement hallucinant. Surtout qu'il a été pas mal titillé dans sa conférence de presse sur cette fameuse statistique qui lui colle un peu à la peau. C'est 5 défaites en 6 finales disputées dans sa carrière. Et il a pris ça avec humour. Il y aurait eu plein de coachs qui auraient pu un peu s'agacer. À la première question, on répond. À la deuxième aussi. Peut-être qu'à la troisième, on commence à s'agacer un petit peu. Mais lui, pas du tout. Il a tourné ça à l'humour. Il a voulu faire rire l'assistance. Et puis, il a tout simplement répondu. Ça veut dire que je suis peut-être le recordman des demi-finales. Je devrais écrire un livre là-dessus. Personne ne l'achèterait, mais je vais peut-être faire ça, écrire un livre sur ma carrière de beautiful loser, comme la presse britannique l'a surnommé ces derniers temps. C'était savoureux, c'était plein d'humour, vraiment c'était exceptionnel. La conférence de presse de Jurgen Klopp, qui n'a pas dit grand-chose en soi, sur l'équipe qu'il allait aligner, sur les petites incertitudes sur sa compo d'équipe. A priori, ça devrait aller pour Firmino et Mohamed Salah. On va voir s'il y a une mise en place tactique aujourd'hui, mais vraiment, vraiment du très très grand Jurgen Klopp à la veille de ce match. Et puis Hugo Lloris, donc, qu'on a interrogé il y a quelques instants, qui lui aussi semble un petit peu détaché, alors beaucoup moins prolixe évidemment, on le connaît aussi Hugo, que Klopp, mais assez décontracté. Il fait un petit parallèle sur la préparation d'une finale de Ligue des Champions avec ce qu'il a vécu en Russie en sélection, avec cette finale de Coupe du Monde qu'il a remportée. Il nous a dit que c'est pas tout à fait pareil, mais il y a quand même des similitudes. On peut se servir de son expérience perso, d'une expérience collective aussi, et il a simplement parlé de concrétiser une aventure avec Tottenham qui a débuté il y a 7 ans maintenant pour lui, et il voudrait la conclure de la plus belle des manières pour remporter ce plus prestigieux titre avec son club.
Loïc Braillet en direct du Metropolitano de Madrid. Merci beaucoup Loïc. On reviendra sur Hugo Lloris juste après 19h. Ça sera notre débat avec Rio Mavuba, Lionel Charbonnier et Laure Le Pailleur. Mais d'abord Willy, ton coup de cœur.
RMC.
Quand t'es en huitième de finale, c'est soit tu te qualifies, soit t'es éliminé. Donc t'as une chance sur deux.
Willy se régale.
Ah ouais. Il est bon,
il est bon. Non, non, mais il faut des années. Il faut des années et des années d'expérience.
Pour
arriver à sortir
qu'il veut absolument
quelque chose
dire.
Comme ça.
Ouais, ça c'est vrai.
Ah bah si, elle veut tout dire.
Et faire croire que ça veut dire quelque chose.
Non, mais elle veut tout dire. Willy. Mais c'est une phrase un peu longue pour dire où t'es oui, où t'es non.
Ouais, voilà. Où t'es oui, où t'es non. Et donc, où t'es Klopp, où t'es Pochettino.
Hey, écoute.
Toi, t'es un peu les deux, peut-être.
Je suis un peu les deux. Mais je veux pas me placer en tant qu'entraîneur, ouais. En tant qu'amoureux du foot. Et peut-être en tant que nostalgique aussi. Je vais expliquer pourquoi. On est dans une époque où on aime bien stariser un peu tout le monde, un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai du mal. Moi, j'ai du mal avec des clubs qui font passer ou qui laissent passer, entre guillemets, les joueurs avant l'entraîneur. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que pour moi la chaîne hiérarchique elle est complètement cassée quand on fait ça. Alors je veux pas dire que Ronaldo à la Juve il est au-dessus de l'entraîneur, mais quelque part oui, que Messi à Barça il est au-dessus de l'entraîneur, oui, que Neymar il est au-dessus de Tourelle, oui. Et ben moi je suis content pour une fois de voir des clubs de Liverpool et Tottenham où tu vois que c'est vraiment ce que sont devenus ces clubs, c'est la patte de leur entraîneur. C'est leurs entraîneurs, c'est leurs managers qui ont fait ça. Klopp et Pochettino, ils ont pas eu besoin de 600 millions d'euros, 800 millions ou 1 milliard pour y arriver.
C'est vrai pour Pochettino, c'est moins vrai pour Klopp quand même.
Klopp, allez, Klopp.
Depuis qu'il est arrivé, c'est 560 millions d'achats. Ouais. Bon, ils en ont vendu pour 400 millions.
Ils ont beaucoup vendu. Ils ont moins 100 millions de la balance.
Depuis qu'il est arrivé, c'est 152 millions dépensés. Si tu fais la balance.
Voilà. Et de bah, venir Manchester mal, City, par exemple.
Oui, c'est.
Eux, ils vendent pas. Eux, ils font qu'acheter. Manchester United, le PSG. Oui, regarde la balance des transferts.
Le moyen ces derniers temps de recruter, on l'a vu avec Alisson, avec Van Dijk aussi, 84 millions d'euros quand même.
Non, mais, ouais, mais moi je parle de la balance. À un moment donné, c'est ce que tu fais gagner à tes clubs.
Oui, oui.
Voilà. Comment il s'appelle, Pochettino? C'est pareil, lui, il recrute quasiment pas.
La balance, le dernier, lui, c'est 33 millions depuis qu'il est arrivé, en 5 ans.
Voilà. Non, mais c'est Lucas, non?
Lucas, ouais, ouais.
Donc c'était en janvier il y a 18 mois. Près, ouais. Donc tu sens que ce que ces équipes sont devenues, ils ont mis en avant des valeurs, ils ont mis en avant des convictions plutôt que de dire je veux ce joueur-là, parce qu'à un moment donné quand tu fais venir des grands joueurs et que tu leur donnes tout, on va prendre l'exemple de Messi à Barcelone où on sait qu'il décide un petit peu qui part qui reste, Neymar quand il arrive on allume la Tour Eiffel. À un moment donné ces joueurs-là c'est difficile après de leur dire quelque chose, c'est difficile à un moment donné de leur dire bouge-toi un petit peu ou travaille différemment, ou là ce sont vraiment deux managers qui, et tu le vois dans la relation avec leurs joueurs, qui sont proches de leurs joueurs, qui tirent 100% de leur effectif, et ça c'est le summum pour un entraîneur, c'est ça, c'est de tirer 100% de ton effectif.
Alors,
et c'est ce qu'ils font.
Moi je veux bien t'entendre, je vais titiller un petit peu. T'es en train de nous dire que c'est les entraîneurs qui sont plus importants que les joueurs.
Mais il faut que ça soit.
Mais tu ne Oui, non, mais dans la hiérarchie, je veux bien comprendre, mais dans le choix sportif, c'est quand même les joueurs qui vont faire gagner l'entraîneur. Sinon, l'entraîneur ne recruterait pas certains joueurs pour pouvoir gagner. Parce que si Klopp, il a pas Van Dijk, il a pas Sané ou il a pas Salah cette année, qu'il a d'autres joueurs, il gagne pas il va pas en Champions en finale.
Mais ça, tu le sais pas, Franck. Avec ou sans Van Dijk, tu peux pas savoir. Moi, je veux mettre en avant d'autres choses. Moi, je veux parler du fait que. Quand tu es Klopp, tu as Liverpool, d'accord, tu payes peut-être 80 millions d'euros pour Van Dijk, mais regarde dans l'état où était l'équipe quand Klopp est arrivé. Après, qui est parti au Celtic, oui, Brendan Rodgers, voilà. Tu vois, c'était le jour et la nuit. Moi, je suis, alors, c'est peut-être être légaliste, c'est peut-être être nostalgique, j'en sais rien. Moi, j'aime que les choses soient définies.
Non mais qu'elle soit définie,
et définie, c'est à un moment donné qui décide et qui est le plus important.
Dans le choix des joueurs, alors quand Klopp et Pochettino prennent un joueur, ils savent aussi quel type de joueur ils vont prendre.
Exactement.
Ils vont pas prendre un joueur qui peut justement.
Ah bah ils prendront pas un soliste. Ils vont pas prendre un soliste.
Faire sa vedette quoi.
Exactement. Ils vont pas prendre des solistes.
Mais par contre, on s'aperçoit depuis des années, peu importe l'entraîneur qu'on a, c'est que c'est à peu près toujours les mêmes joueurs qui glanent les trophées, donc qui font gagner des entraîneurs.
Voilà, mais regarde, je vais poser une question, Franck, dans un peu dans le sens ouais. inverse. Franck, c'est quoi, ça serait quoi le plus grave pour, par exemple, pour Liverpool? Ça serait de perdre Salah et Mané ou de perdre Klopp?
Bonne question.
C'est une vraie question.
C'est une vraie question, mais les deux réponses sont possibles. Les deux réponses sont possibles.
Moi, je pense pas.
Tu penses que ils perdraient plus à perdre Klopp.
Et Klopp, il a emmené Dortmund, pas avec non plus des joueurs exceptionnels, il les a emmenés en finale aussi.
Ouais,
c'est
mais
quand même une équipe exceptionnelle, l'équipe de Dortmund de 2013, Willy.
Ouais, enfin, Schmelzer. Attends, non, mais attends. On va parler de Schmelzer.
Là, tu vas sur le terrain. Foutalement, attention.
On parle pas de Maximilian Arnold et Robertson.
T'as Hummels.
Oui, mais t'as quand même des joueurs qui après ne sont pas partis dans des grands clubs et qui sont ou restés à Dortmund ou été dans des clubs plus bas.
Le mec, il connaît.
Non, mais je sais. Mais tu avais quand même pas un effectif à la base pour gagner ou pour aller en finale de la Ligue des Champions.
Noir, c'est son truc.
Non mais bien sûr, mais Chelsea, quand on en parlait de Chelsea de 2012 qui gagne avec Roberto Di Matteo qui a fait 6 mois au club.
Oui, mais ça c'était un épiphénomène.
C'est un épiphénomène. Mais on parle que d'épiphénomène parce qu'on se dit que Klopp il a gagné.
Il y a une progression quand même.
Dortmund, ouais, mais bon,
il y a une vraie progression aussi sous Pochettino dans les résultats.
Ah, c'est plus qu'une progression.
Mais est-ce que c'est pas un miracle? Pochettino, c'est pas un miracle cette année?
Tu peux dire un miracle sur une année, mais ça fait quand même plusieurs années que ça dure. Pochettino à Tottenham.
Mais la qualité des joueurs augmente aussi.
Mais pas forcément, puisqu'il n'achète pas, il arrive juste à les faire progresser.
Et puis surtout, ils jouent ensemble depuis 4 ans. Et aussi
voilà, c'est ça.
Ouais, mais les joueurs progressent. Non, mais sur Pochettino, je suis plutôt d'accord. Sur Liverpool, on remarque que à chaque poste, c'est qualité mondiale.
Oui, et que les recrues.
Même un jeune comme Alexander Arnold, c'est qualité mondiale. Oui. Et Robertson de l'autre côté, il y a pas un joueur.
Tu vas me dire. Pourtant, je l'aime beaucoup parce que moi, je le connais depuis qu'il était en Allemagne. Tu vas me dire que Joël Matip, c'est de qualité mondiale.
Non, mais
je suis persuadé qu'il y a même des gens ici qui savaient pas qui il était avant.
Et Matip, je suis d'accord que c'est peut-être les exceptions qui confirment la règle. Oui, voilà. Au même poste, mais. Non.
Franck, regarde dans le monde où on vit, un mec comme Milner, la plupart des gens, je dirais à un moment donné, tout le monde dit, mais c'est qui ce mec là?
Mecs qui comprennent au fond.
Non, mais je suis d'accord avec toi,
Franck. C'est les deux premiers que j'achète.
Je suis d'accord avec toi, Franck.
Ouais.
Mais regarde, il y a d'autres projets, notamment de clubs qu'on connaît très bien. On veut pas de joueurs comme ça.
Il est libre en fin de saison.
Parce que c'est pas beau.
Mais les gens comprennent rien au foot.
Et c'est pour ça que je te dis que quelque part, je suis un peu nostalgique. Et j'aime bien, je veux pas dire que c'était mieux avant et moins bien maintenant, parce que voilà, c'est les époques, il faut les accepter. Mais moi, j'aimais ces entraîneurs, même des entraîneurs d'avant, des entraîneurs avec un vrai, c'était eux les chefs, les boss.
Mais non, mais quand
aujourd'hui, tu le vois dans beaucoup de clubs où t'as l'entraîneur qui dégage, tu le vois que souvent, la première raison pour laquelle un entraîneur se fait dégager, c'est parce que il y a 2-3 mecs dans le vestiaire qui voulaient plus de lui.
Mais ça c'est sûr.
Allez, et avant ça se passait pas comme ça. Et je suis content de voir des mecs comme Klopp, comme Pochettino qui travaillent sur la durée, qui mettent des mecs qui peuvent acheter des mecs avec leur valeur, que les clubs acceptent ça aussi, que c'est pas une course à l'achat de la star qui va nous faire gagner, c'est pas la star qui va nous faire gagner côté Liverpool et Tottenham, c'est l'effectif, c'est le groupe et c'est la cohésion de groupe.
C'était donc le coup de cœur de Willy Sagnol sur Jürgen Klopp et Mauricio Pochettino. On revient évidemment
ça me gratte encore
à cette finale de Ligue des Champions juste après 19h, on parlera du goliorisme. Mais d'abord 18h40, Franck, c'est ton moment.
À la table de l'humilité.
Dépêche-toi, t'as qu'une minute.
Allez, je vais aller très très vite. Moi, j'ai une petite parole ouverte.
Comme à la maison.
À Dédé.
Une minute.
Dédé. DDVB. Non, oui, c'est ça. Comme à la maison. Je ne vais parler qu'une minute à la maison. Non, mais voilà, c'est juste puisque le projet a changé, puisque Andrés Villas-Boas, il a décidé de l'employer à Marseille et qu'il y a un nouveau projet, Dédé crée une cellule de recrutement. Voilà, hein. On a besoin d'aller chercher les jeunes. Donc, tu les payes toi-même, puisqu'il prend une blinde, je crois que c'est 400 000 net. Hein, on est à peu près ça.
350.
Ouais, 600. Bon, on va pas
c'est
dire.
Pas beaucoup, tu vois.
Mais, prends 3-4 mecs que tu payes toi-même, qui vont aller voir plein de matchs, et comme ça, tu vas pouvoir recruter des jeunes de qualité, des matchs de quartier, des trucs comme ça. Plein de jeunes, je veux voir plein de pépites. J'en ai marre de voir ces fausses stars venir prendre 500 000 par mois qui rapportent rien à l'Olympique de Marseille. Mais s'il n'y a pas de cellule de recrutement, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, le premier boulot d'André Villas-Boas, c'est de créer une cellule de recrutement. Comme ça se passait à l'époque où il était à Porto, où il a été bon. Moi, j'en ai rien à foutre de Villas-Boas au Zénith, à Chelsea, à Tottenham, ou je sais pas, en Chine.
Shanghai.
Ou à Shanghai, voilà, où il prend du pognon et il crée rien. Je veux voir le André Villas-Boas de Porto qui crée quelque chose avec des jeunes.
Tu crois que c'est possible?
Ben, c'est que par là que ça fonctionnera. C'est que par là que ça fonctionnera, parce que il faut tout recréer à Marseille. Et alors, bonne chance. Essaie de pas garder Balotelli, on sait que ça marche 5-6 mois, donc ça y est, ils sont passés, donc ça sert à rien. Essaie de d'alléger la masse salariale avec les Payet, les peut-être Strootman ou je sais pas d'autres. Mais l'objectif principal de Villas-Boas, c'est de créer une cellule de recrutement pour qu'enfin on aille chercher des petites pépites qui valent pas grand-chose, presque rien, et qui rapportent beaucoup.
Attends, oui. Alors, je suis d'accord.
Été, recruté pour ça aussi.
Faire une cellule de recrutement. Je suis d'accord.
Travailler ensemble.
Mais ça va lui faire payer quand même beaucoup de mecs, parce que il faut voir un paquet de matchs, il faut se déplacer énormément pour essayer de trouver la pépite, parce qu'il n'y a pas que, il n'y a pas que 2-3 clubs qui sont sur les pépites.
Bah, ça
aujourd'hui, tu as 200, 300, 400 clubs sur les pépites.
J'en calcule à 350 000 euros net. Il prend 10 mecs à 10 000 euros net, 10 000 euros par mois.
Ah, il file 100 000 par mois, lui, comme
alors, il reste 250 000, ça va, quoi.
Ça suffit.
On y va, François,
on y va. Il va pas net. J'y vais aussi, hein.
Je suis d'accord, mais là,
c'est pas au club de mettre en place une cellule de recrutement pour chercher des jeunes.
Ah, mais ça
n'a
pas été fait depuis 3 ans, donc.
Mais regarde, regarde.
Vas-y, Zoubi, merde.
Il regarde les cellules de recrutement des clubs français. Regardez-les.
Il y en a pas, on en a parlé.
Quand t'as 3 mecs dans la cellule, c'est déjà une grosse cellule.
Et puis, il faut les écouter aussi. Les rapports des scouts et tout
ça, il faut
les lire et écouter.
Ah,
mais c'est ça, pas toujours le cas, peut-être.
Bah après, c'est aussi leur travail de faire des rapports aussi.
Non, mais il faut peut-être que les gens.
Exactement,
François va prendre un exemple. On va la prendre. En club, en moyenne, en France, il y a combien de recruteurs?
Je sais pas, moi. À Bordeaux, la deuxième année, il y en avait 2.
2, ok. Il y en a combien à Porto?
Je sais pas, ils sont 40-50.
On le sait, tu le sais ça.
Ben voilà.
C'est vraiment 40-50, c'est à ce point.
Ah, c'est beaucoup. Ben voilà. C'est énormément, ouais.
T'as tout compris.
Parce qu'après,
hein,
ils ont des mecs qui emploient aussi dans des, par exemple, ils ont une dizaine de mecs, ils ont en Amérique latine. Donc après, je sais pas comment, si c'est un emploi direct ou si c'est
Et tu penses que les clubs français sont pas un émissaire en Amérique latine,
non,
en
mais
Afrique?
Un émissaire,
ou un maillage avec des gens qui payent au rapport, je sais pas, c'est une question. Personne, par exemple, vraiment à bord.
Quand tu vois les recrutements des jeunes en France, tu dis que non.
Quand tu vois le recrutement.
Sinon, c'est pas possible.
Willy Sagnol, quand il était à Bordeaux, ça explique tout.
Pardon?
Attends,
on parlait de l'Amérique latine, on a fait venir Malcolm.
Malcolm.
Donc, c'est bien.
Vous aviez deux à Bordeaux, vous en aviez deux qui recrutaient. Est-ce qu'ils faisaient le monde entier ces deux-là, ou
ils voyaient autant de matchs qu'ils pouvaient, parce que c'était des mecs qui bossaient dur aussi. Mais à deux, tu peux pas voir le monde entier à deux.
Ils avaient pas des gens placés en Amérique du Sud,
Mais tu veux les placer comment? Tu peux essayer d'avoir des contacts, mais bon, les contacts que tu as, généralement, c'est un agent que tu vas avoir par-ci, un agent que tu vas avoir
qui va te
forcément donner le joueur avec les critères dont tu as exactement besoin.
Ouais.
Pour revenir à Villas-Boas, Willy, qu'est-ce que tu en penses?
De Villas-Boas?
De lui, de son arrivée, qu'est-ce que tu en attends? Est-ce que t'es d'accord?
J'en sais rien. L'Olympique de Marseille finit quoi? Cinquième. Donc, lui, ça veut dire que s'il finit pas mieux que cinquième, il fait quoi en fin d'année? Dégage aussi?
Bah, en tout cas, il a dit dans sa conférence de presse de présentation que l'objectif, c'était le podium dès la saison prochaine.
Voilà. Donc, s'il est pas sur le podium, on fait quoi? Il dégage.
Il est fou, le mec.
Non mais attends. Il dit, l'objectif, c'est d'être sur le podium. Si on n'est pas sur le podium, j'essaie d'aller très vite. Je dis, bon, il dégage. Mais si jamais l'objectif est d'être sur le podium, Franck, en fin d'année, tu crois que Villas-Boas va aller chercher des petits jeunes, des petites pépites qui seront prêtes dans 3-4 ans quand lui sera plus là?
Ben non, bien sûr que non.
Ben non. Donc c'est pas à lui. Alors je t'ai laissé parler ta petite minute. C'est pas à lui d'aller chercher les petites pépites.
C'est à
Andoni Zubizarreta, parce que Zubizarreta, lui, il doit incarner la durée, la pérennité du club. Andrés Villas-Boas, peut-être que, regarde, il vient à Marseille,
quand tu vois son parcours, Porto, Chelsea, Tottenham, il a essayé de prendre des chèques de plus en plus gros.
Bah oui.
Tu sais que s'il fait une belle saison avec Marseille et que l'année prochaine il y a un club qui arrive qui le paye mieux, monsieur André Villas-Boas, qu'est-ce qu'il va faire? Au revoir, messieurs. Et il va partir. Donc, c'est pas à Villas-Boas, à un moment donné, de prendre en main la destinée sportive du club, mais c'est à Zubizarreta d'en assurer la pérennité. C'est son job, c'est le job du directeur sportif.
18h46 sur RMC, vous écoutez ici, c'est Willy, dans quelques instants, le journal moyen de Pierre Amiche. Mais d'abord, le direct, c'est Roland Garros, Eric Salio, où en est-on?
Plein de choses à vous dire. D'abord que Rafael Nadal n'est pas au vestiaire. Il a perdu un set. Événement ici. David Goffin lui a subtilisé la troisième manche 6 jeux à 4. Donc on est au début du quatrième. Et Nadal est mène 2 jeux à 1. Sur le court 14, vous savez, c'est un chaudron. C'est fantastique ce qui se passe pour Corentin Moutet car il vient d'embarquer Londero dans un cinquième set extraordinaire à venir pour le jeune Français de 20 ans parce que en 4 victoires, Corentin Moutet affronterait le vainqueur de Nadal Goffin. Imaginez l'ambiance sur le 14. Et puis Nicolas Mahut n'est toujours pas battu, il s'accroche, il est mené 2 manches à 1 par Leonardo Mayer, mais il mène 3-2 dans le quatrième set.
Merci Eric. 18h47, ici c'est Willy, revient tout de suite avec le journal moyen de Pierre Amiche.
Alors on est à l'antenne.
Non mais il faut s'hydrater, il fait chaud aujourd'hui, il fait chaud dans le studio aujourd'hui.
Je me suis fait surprendre. Il y avait donc une question Pinet.
Oui, alors vendredi, la question Pinet, je vais François. La poser exceptionnellement à Francky, parce que tu vas en parler Willy dans un instant. C'était sur Hugo Lloris. Ouais. Est-ce qu'Hugo Lloris fait partie des 5 meilleurs gardiens du monde? Donc tu dois répondre par oui ou par non.
Oui. Et moi je dis oui.
Tu peux détailler un peu.
Je me dis oui parce que avec ce qu'on a vu faire.
Bah... T'as encore 27 secondes, Franck. Vas-y.
Merci Franck. Alors c'est 73% de oui, tout le monde en majorité d'accord avec toi. Bien. 27% de non, mais vous pouvez continuer à voter sur le compte Twitter.
Non, mais il y a Alexis, celui de Manchester City.
Allison.
Je peux pas s'appeler le bœuf.
Ter Stegen. Oblak. Je peux t'en mettre.
N'oublie pas.
Il y a Hugo Lloris.
D'accord.
Allez,
à
merci.
Tout de suite sur RMC.
Franchouillard,
faut être
franchouillard. RMC, 18h-20h. Ici, c'est Willy Sagnol.
Allez, 18h50, c'est toujours dans Ici, c'est Willy sur RMC avec Franck Leboeuf, François Pinet et Louis Amar. Louis, dans cette deuxième partie, on va parler d'Hugo Lloris.
Exactement.
Et du Real qui prépare son énorme mercato.
Avec Laure Lepailleur, Rio Mavuba et Lionel Charbonnier juste après 19h, Hugo Lloris peut devenir demain le deuxième gardien de l'histoire à remporter la Ligue des Champions après la Coupe du Monde. Serait-il considéré différemment? On en débat à 19h25, le carré VIP sur le mercato du Real et le Focus Ligue 1 sur la succession de Jean-Louis Gasset à Saint-Etienne. Et puis, comme chaque soir, on terminera avec le buzzer Pinet. Mais d'abord, à 18h50, le journal moyen avec toi, Pierre Amiche. Salut.
Re-salut. Oui, je vous l'avais promis, ça y est, le très beau tour du monde va pouvoir démarrer. Avec d'abord la France et le Nord en feu parce que Lens jouait sa montée. L'Europe avec un passage dans les coffee shops hollandais, ça c'est cadeau. Et puis l'Asie avec un aller-retour entre la Corée et un autre pays qu'on connaît bien, la Mongolie. Vous écoutez RMC, c'est le 35e journal moyen de l'histoire de Ici c'est Willy.
En direct de la rédaction de RMC Sport, le journal moyen d'Ici c'est Willy.
Avec la première escale donc en Mongolie, et oui, hier le Moscato, c'était une émission folle, c'était férié, donc c'était la fête, mais ça explique pas tout, et on commence avec une immense déception. Pierrot, c'est le cerveau de l'équipe du Moscato Show, tout le monde le connaît, hein, c'est le plus malin, il sait tout, il travaille le plus. Quand t'as une question, bah tu demandes à Pierrot, et puis il a la réponse. Mais hier, énorme craquante du meilleur d'entre nous.
Pour la Ligue 1, c'est-à-dire que celui qui gagne match sec hein, entre Lens qui a terminé 5e de Ligue 2 et Dijon qui a terminé 18e de Ligue 1, match sec, celui qui gagne est en Ligue 1, celui qui perd.
Et heureusement, match aller-retour, Pierre. Match aller-retour.
Match aller-retour.
Lens ce soir,
c'est encore une belle saucisse.
Oh là là. Vincent, match sec.
Bon, c'est raté, c'est un match aller-retour.
Il aurait dû me demander. À chaque fois, il me demande normalement
pour vérifier, bah oui, puisque t'es l'autre quand même.
Attends, c'est toi, t'étais là ou pas? T'étais pas là, c'est
non, non, j'étais pas avec lui.
Mais par contre, t'as personne qui est là pour l'aider, sauf pour l'enfant.
C'est Vincent, c'est le concept de l'émission.
Ah, et chien.
Donc, le match aller, c'était donc à Félix Bollard. À Lens, un stade pas vraiment comme les autres. L'ambiance est totalement folle là-bas. Déjà, rien qu'à l'arrivée des joueurs au stade, écoutez, c'est complètement fou. Là, faut imaginer, il y a 10 000 personnes, fumigènes, c'est impressionnant pour accueillir l'arrivée du bus. Et pendant le match, évidemment, on a l'habitude, c'est à la mi-temps, on l'attend, on l'espère, c'est ça. Cette ambiance, elle est quand même magnifique et elle a été appréciée par tous.
y compris, et c'est très important, par les acteurs du match.
C'était magnifique, j'ai connu pas mal de choses dans ma carrière, mais c'est arrivé au stade, puis cette ambiance, c'est magique, c'est un rêve de pouvoir évoluer devant un tel public. Voilà, ils ont vu ce soir que l'équipe a tout donné, et j'espère qu'ils sont comme nous, qu'ils sont encore confiants pour aller chercher cette montée en Ligue 1.
Donc score final un partout entre Lens et Dijon. Vous avez des souvenirs, vous, de Bollaert en fusion? C'est un stade particulier?
Ouais, barrage, moi. Tu vas me sortir du corps sur moi.
Non, promis,
barrage,
promis.
Barrage là, retour avec le Racing Club de Strasbourg et on perd 3-1 à Lens. Magnifique.
Grosse ambiance?
Énorme ambiance.
Toi, Willy, t'as des souvenirs de Lens un peu particuliers ou pas du tout?
Oui et non, enfin j'ai pas trop joué en fait à Lens.
Ah oui.
Non.
C'était intéressant alors.
Non, j'ai pas trop joué. Geoffroy Guichard et Bollaert, c'est les deux meilleurs publics de France.
Stade Louis II aussi. Bon, après l'ambiance, il y a aussi que le football, c'est de l'amour.
If you are blonde at a big, big Catherine, it interests me.
Eh oui, sur Twitter, Memphis Depay est en vacances, il est chez lui à Rotterdam, et il a vécu une petite aventure qu'il partage avec ses fans sur Twitter. Il tweet, à la fille à laquelle j'ai parlé qui a loupé le métro qu'elle devait prendre, je suis désolé et je voulais juste te dire que je te trouvais belle. Bon, on espère que ça conclut. Hein. Vous avez déjà, vous, utilisé les petites annonces Twitter comme ça pour chiner un peu? Parce que là, clairement, l'opération, je sais pas si c'est une réussite, mais c'est du matraquage. Hein. Il a plus d'un million de followers. C'est bien tenté.
Ouais, non,
pas de petite annonce sur Libé non plus. Willy,
j'ai fait une annonce sur France Football pour me vendre moi. Je vais avoir essayé de trouver un club. Ça a marché pour trouver une femme.
Ah, c'est parce que t'es beau gosse.
Ouais, c'est ça.
Au passage, moi, je vends un Piaggio Fly 50 cm pour les pièces si ça intéresse.
À combien?
C'est pas cher.
D'accord.
Allez, direction la Corée. Parce que l'attaquant de Tottenham, Son Heung-min, s'est confié au micro de BT Sport, notamment au sujet de son enfance. Et c'est assez fou parce qu'il raconte que son père, qui était coach, le faisait bosser plus que les autres. C'est en anglais, tendez bien l'oreille.
Yeah, it was hard. I've been like 4 hours juggle the ball and...
4 hours?
Yeah. Can you imagine 4 hours?
Donc pour ceux qui parlent pas anglais, il explique qu'en fait il faisait 4 heures de jongle par jour. J'aurais absolument pas l'intérêt, mais bon, 4 heures quand même, c'est énorme.
Ouais,
c'est
fait 2, ici c'est Willy.
2 jongles. Qui va faire des jongles. Et après, plus dans la vidéo, il explique qu'il voyait même plus le ballon, que ça faisait comme des roller coasters des montagnes russes. Ouais, désolé, je parle pas. Et on termine notre formidable tour du monde.
C'était un coréen, ça. Ouais.
Et on termine notre formidable tour du monde avec le Burundi.
Leur donner quoi à bouffer? C'est du bœuf?
Non, c'est de l'opposant politique.
Parce qu'il y a une très belle histoire que j'avais envie de partager avec vous. Ça se passe au Burundi. C'est une vidéo assez vieille, mais qui a ressurgi un peu par magie sur les comptes Twitter de différents comptes Twitter. En fait, l'administrateur de la commune et son adjoint, ils ont été écroués parce que le président de la République a été taclé pendant un match de foot. Et je vous promets, il n'y a rien de parodique. Écoutez le reportage.
Les règles sont pourtant connues de tous. Quand le président est en possession du ballon, eh bien aucun adversaire ne doit l'approcher à moins de 3 mètres. Et il doit marquer un but ou du moins être à l'origine d'une action décisive. L'équipe adverse peut égaliser, mais elle doit absolument laisser le président marquer avant le coup de sifflet final.
À ce qui paraît, c'est la même chose pour le match de l'after. À ce qui paraît, ce sera la même chose pour le match de l'after avec Gilbert Bongo-Bribois. Pas le droit de le tacler. Il faut lui laisser marquer un but.
Mais même
c'est
si on le laisse marquer, je suis pas sûr qu'il y arrive.
Hein. À chaque fois que j'ai joué contre Didier Deschamps, je m'approchais pas à moins de 3 mètres.
Bah, c'est normal.
Non, je
c'est normal.
Il était patron.
Hein, c'est normal. Hein, donc
c'est le problème de Dugas. Dugas, pourquoi il a eu, voilà. Parce que tous les problèmes viennent de là.
Il s'est approché trop près.
Trop près. Tu t'approches pas du patron.
Bon, allez, on finit. Dernier élément. Un quiz. Qu'est-ce qui s'est passé le 31 mai? Est-ce que vous avez une idée d'un truc, un événement?
Pas une date un peu plus.
Ouais, 31 précise. Mai, voilà, tu te démerdes avec ça. Non, 31 mai, c'était il y a quelques années déjà. C'était il y a 17 ans. Ça
je
parle
sais.
Pas.
Moi, je sais. Si, je sais.
Ah.
Si, je sais. Et je regarde même pas ta feuille. Non. Y était, Franck.
T'y étais,
c'est
ouais.
ça, t'y étais.
Ouais, t'y étais, ouais.
Il y a 17 ans.
Vas-y, vas-y.
J'y vais. C'était le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002.
Exactement. Exactement. France-Sénégal.
31 mai 2002.
Petite piqûre de rappel.
Ah, c'est pour ça que je me rappelle plus.
Allez, faut avancer les Sénégalais. Il Tiao qui, d'une belle talonnade, la remet pour Camara à l'entrée de la surface de réparation. Frappe de Camara. Le but! Le but! Le but sénégalais!
Et ouais, défaite 1-0, un but de Papa Bouba Diop. Et ben voilà, ça, apparemment c'est pas un souvenir impérissable.
Qu'est-ce qu'il était nul, ce Leboeuf, ce match-là. Qu'est-ce qu'il était nul.
Ouais. Énorme. Non, c'est bien si j'étais solidaire de mes copains.
Niveau,
on était tous à chier.
Non
mais le truc, le but est quand même le plus pourri des buts. Je crois
qu'on va Manu Petit.
Ouais,
tranquillement.
C'était une bombe.
Bon, d'un bon souvenir pour les Sénégalais.
Nous saluons nos amis sénégalais. Ils ont été très forts ce match-là.
Pour le journal moyen. Merci Pierrot. Merci Franck.
Salut.
Salut Franck.
Content de partir sur cette note-là. Allez,
salut Francky.
Dans quelques instants, juste après les infos de 19h, on se retrouvera Willy et François en compagnie de Lionel Charbonnier, Rio Mavuba et Laure Le Pailleur. On revient sur la finale de la Ligue des Champions qui a lieu demain et on parle du Golioris. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, ici c'est Willy.